Bonjour et bienvenue à tous dans ce débat d'entre-deux-tours pour les élections municipales à Saint-Lô. 12 communes dans la Manche ont un second tour dimanche prochain. Cela va d'un duel à Cherbourg à une cacangulaire à Coutances. La ville que nous recevons aujourd'hui, c'est donc Saint-Lô. 4 candidats, 4 listes qui se sont maintenues. Emmanuel Lejeune, vous êtes la maire sortante. Vous avez viré en tête avec 33,42% des suffrages au premier tour. Bonjour.
Bonjour.
Laurent Houssin, vous êtes deuxième avec 17,77% des voix. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Margoteau, de la Gauche Unie, vous êtes troisième avec 14,2% des voix. Bonjour.
Bonjour.
Et Fabien Legast, vous êtes quatrième avec 12,06% des voix. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Il restait deux listes qui se sont désistées, qui étaient aux alentours de 11%. Avant de débattre de vos propositions concrètes, une première question pour vous, Fabien Legast et Sébastien Margoteau, sur la stratégie d'entre-deux-tours extérieurement. On se disait, s'il y a deux listes qui peuvent fusionner, c'est bien la vôtre, liste citoyenne, Fabien Legast, et Gauche Unie, Sébastien Margoteau. Finalement, non, pas pour savoir à qui est la faute, mais surtout, qu'est-ce qui intrinsèquement vous sépare, Fabien Legast ?
Aujourd'hui, le collectif ne se reconnaît pas dans les valeurs partagées par le représentant de la Gauche Unie. Nous, on a une méthodologie qui est différente des logiques de parti. Nous, on vise la transparence et l'honnêteté. Et aujourd'hui, on ne peut pas répondre à une proposition qu'on n'a jamais reçue de la Gauche Unie.
Sébastien Margoteau, de la Gauche Unie, justement.
Nous, notre projet, il est assez clair, il a été clair depuis le début. Nous nous sommes rapprochés de nombreuses fois du collectif Communes Citoyennes, qui est ensuite devenu une liste, dans le cadre d'un projet clair, dans le cadre d'une volonté de synthèse. Et en fait, la réalité, c'est que les propositions, effectivement, et là je suis d'accord avec M. Legast, divergent fondamentalement sur le fond et sur la forme, puisque nous, la logique, c'est de travailler dans une logique d'union et de clarté des forces politiques de la gauche et des forces progressistes sur notre territoire. Les partis, mais pas que, bien évidemment, puisque nous avons une liste très diverse, très plurielle, avec des personnes qui ont des engagements dans des partis et des personnes qui n'en ont pas du tout. Et ceci a été effectivement, je dirais, le point principal d'achoppement des nombreuses discussions qui ont eu lieu, puisque nous avons discuté dès le début avec Communes Citoyennes, et notamment dans le cadre de deux temps d'échange qu'il me semble important de rappeler à l'heure actuelle. C'est une rencontre le 20 novembre 2025 et une dernière rencontre début février. Les propositions et les éléments ont permis de montrer et d'exprimer une divergence fondamentale sur la méthode, mais aussi sur le fond, c'est-à-dire sur le programme, sur le fait d'être, en tout cas au niveau de la Gauche Unie pour Saint-Lô, clairement positionné et clairement annoncé comme étant une liste d'union de la gauche et d'union des forces de la gauche, avec une vision claire pour Saint-Lô, pour changer les choses au niveau de notre territoire. Le collectif Communes Citoyennes ne s'est pas retrouvé dans ça, ne s'est pas retrouvé dans les personnes aussi peut-être qui portait le projet, ne s'est pas retrouvé dans les propositions qui étaient les nôtres et que nous avons souhaité discuter dans le cadre de ces échanges. Et donc on s'est retrouvé une logique de résultat dimanche. Alors nous avons réitéré notre appel à nous revoir, à nous retrouver, et nous avons eu, et là c'est une réalité assez claire à ce niveau-là, lundi matin, je communique, j'envoie un message à monsieur Legast pour discuter éventuellement d'une rencontre, discuter de la potentialité de faire une fusion. Et j'ai appris par voie de presse que la liste Communes Citoyennes déposait ce matin même sa liste pour le second tour des élections municipales.
Une réponse, Fabien Legast.
Alors, nous avons fait un communiqué de presse ce matin. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Je pense que ce n'est pas le débat aujourd'hui.
Et alors, le débat, justement, si on revient sur le fond de vos propositions, ce qui vous différencie, ce qui peut aussi parfois vous rapprocher. Premier sujet, l'économie. Comment attirer des entreprises, que ce soit des commerces ou non, d'ailleurs, dans la ville, que ce soit le centre-ville ou la périphérie. On va commencer avec vous, Emmanuel Lejeune.
Oui, merci. Alors, permettez-moi, avant de commencer, de pouvoir rendre hommage aujourd'hui. Nous sommes le jour de la Saint-Patrick. J'étais ce matin en cérémonie d'hommage parce qu'il y a 80 ans était inauguré l'hôpital irlandais. Et donc nos amis irlandais qui sont venus en aide aux habitants de Saint-Lô après le bombardement et qui ont permis de prodiguer les premiers soins et notamment de faire naître les enfants de 1946. Et je voulais revenir dessus parce que c'est important. C'est important pour l'histoire de notre ville. Nous étions nombreux ce matin à commémorer, c'est-à-dire à faire mémoire ensemble. Et je crois qu'on a beaucoup parlé du soin et de la santé pendant cette campagne. Et c'était un moment, voilà, de solidarité et de soins qui était extrêmement important pour le relèvement de notre ville. Et je crois que nous tous ici, Nous devons et nous devons penser et rendre hommage à nos amis irlandais aujourd'hui et ensuite l'hôpital mémorial qui sera construit à la suite de cette initiative de solidarité. Alors pour revenir...
À l'économie.
Comment ?
À l'économie.
À l'économie et donc au commerce, et notamment au commerce du centre-ville. Je crois que le commerce du centre-ville et la vie de la ville, et tout est relié. C'est-à-dire qu'on a des sujets d'attractivité générale qui sont liés au logement, qui sont liés à la sécurité, et qui sont liés à la vitalité de nos commerces de proximité, évidemment nos commerçants, qui sont précieux pour le service, pour la qualité des produits, pour la vitalité de notre ville. Et aujourd'hui, nous avons donc ce lien très fort avec les commerçants, puisque nous travaillons en permanence avec l'association Saint-Lô Commerce, qui est une association pour laquelle nous portons une subvention de 36 000 euros et qui nous permet de pouvoir animer ce centre-ville, alors de différentes façons, parce que chacun prend sa part, chacun prend son rôle. Et donc, en complémentarité, nous sommes en capacité de créer, alors bien sûr, le quotidien, mais aussi notre capacité de créer de l'animation, parce qu'on sait aujourd'hui que le plus grand concurrent du commerce de centre-ville et de proximité, c'est bien Internet. Alors, notre proposition, c'est passer du canapé à la convivialité et de pouvoir, avec l'association Saint-Lô Commerce, avec qui nous avons de très bonnes relations, d'animer la ville, de pouvoir inviter donc les habitants à vivre des moments importants. Je prends l'exemple de la braderie qui a lieu il y a 10 jours, je prends l'exemple des festivités de Noël, où les services de la ville sont en capacité, par exemple, de réaliser un village de Noël, et les commerçants proposent un certain nombre d'animations, et on crée une émulation, on crée une animation qui permet donc d'attirer et qui permet évidemment de consommer, parce qu'il s'agit de consommer et que nos habitants soient de vrais consommateurs du centre-ville.
Laurent Houssin, sur le commerce.
On va reparler du commerce. Donc, nous sommes renseignés pour M. Auger, qui était à la place de Charlie Bourget à Drunelbourg. Effectivement, un mois après, il a pris sa retraite. Donc, il a arrêté pour des raisons personnelles, parce qu'il avait l'âge de prendre sa retraite. Mais il a quitté Saint-Lô parce qu'il y avait quand même un manque d'attractivité, un manque de stationnement. Et donc,
c'est une question de retraite ou c'est quoi la question, M. Houssin? C'est quoi la réponse, surtout?
Vous nous dites qu'il a arrêté parce que ça ne marchait pas là-bas.
C'est l'information que j'ai eue. Alors maintenant, vous me dites qu'il est parti en retraite. Donc, ça ne marchait pas, il est parti en retraite. Ça n'a rien à voir avec le maire de Saint-Lô, là.
Il a quitté parce que...
C'est l'histoire d'un commerçant de Saint-Lô qui a déménagé pour revenir, pour ceux qui ne seraient pas au courant des termes de ce débat.
Voilà, donc c'est toujours bien, après, de revérifier ce que vous dites, et notamment sur la manière d'aménager ou pas les places de Saint-Lô. Donc voilà, on a quand même des fonctionnaires qui auraient pu travailler pour vous, d'ailleurs, à la ville de Saint-Lô, s'il n'y a pas autant de problèmes de ressources humaines. Mais l'article L621-32 du Code du patrimoine n'interdit absolument pas de mettre des places de stationnement là où il y a un bâti qui est classé comme à Saint-Lô. Voilà, il faut simplement avoir l'avis de l'architecte des bâtiments de France, parce que vous nous faites un procès comme quoi on ne pourrait pas remettre le stationnement dans le centre-ville. Et c'est totalement faux. Donc on est allé vérifier, c'est possible de remettre avec l'avis des architectes des bâtiments de France.
Oui, mais il faut que vous l'ayez l'avis.
Oui, mais c'est pour ça qu'on va le demander.
C'est pas simple de l'avoir, l'avis.
Ah ben on va le demander. Et c'est un projet qui se construit.
Il y a d'autres services aussi.
Pour que nos commerçants, le commerce, sans stationnement, il n'y a pas de business. L'absence de place de stationnement nuit gravement au commerce. Donc on va remettre du stationnement.
Mais vous savez très bien que la question du stationnement a été bien travaillée, notamment par la rotation. La vraie question, c'est la rotation, monsieur Houssin, vous savez bien. Les voitures tampons. Qu'est-ce que vous faites pour les voitures tampons?
Stationnement.
Les voitures qui restent 10 heures devant nos commerçants, vous faites quoi? C'est quoi votre solution?
Si c'est une zone blanche, faut changer, faut la mettre en zone blanche. Mais c'est vous avec.
Non, zone blanche, vous la mettez en zone blanche, vous changez rien alors.
À l'époque où la tour aglo s'est installée là, mais une zone bleue, ça se vérifie.
La question est simple. Vous avez des voitures tampons devant les commerces. Les voitures tampons, elles restent 10 heures.
Vous verbalisez, vous avez une AVSVP quand même, c'est son
pourquoi
rôle.
Vous voulez laisser 10 heures? Le travail qu'on a mené pendant le mandat, c'est de proposer des zonages par rapport au stationnement et de créer la rotation. La rotation, ça crée le dynamisme du centre-ville. Il y a des zones bleues, c'est 2 heures, et il y a des places 15 minutes. Aujourd'hui, les commerçants sont satisfaits, on a travaillé avec eux. Donc vous pouvez aller leur demander. On a fait tout un travail, quand je dis on travaille avec l'association des commerçants de la ville de Saint-Lô, on travaille sur toutes les questions, stratégiquement. On n'est pas simplement là, force de présence quand on est avec eux. On travaille sur la question des stationnements, on travaille sur la question de la stratégie, on travaille en lien avec les services de l'agglo parce que ça comporte l'attractivité, le développement économique à l'échelle du territoire qui est l'agglomération. Et c'est ça qui est important. C'est moi, je veux bien entendre toute votre solution, mais je ne vois pas comment vous libérez le centre-ville de voitures tampons.
Sébastien Margoteau pour passer la parole. Est-ce que le stationnement, c'est l'alpha et l'oméga du commerce ?
C'est pas l'alpha et l'oméga, même si le stationnement, bien évidemment, il faut s'en occuper. Je vois que ça devient là, ici, l'alpha et l'oméga de mes deux concurrents à ma gauche et à ma droite. Au niveau de la situation, je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus large que ça au niveau du questionnement sur le commerce. Là où je rejoins Madame Lejeune, c'est qu'il y a des évolutions sur les modes de consommation au niveau de nos citoyens, notamment à Saint-Lô, avec des déplacements vers des gros centres commerciaux, ça on le sait, mais aussi un achat croissant sur Internet. Alors le fait d'activer une activité culturelle et une action culturelle sur le centre-ville et à côté des commerces, c'est effectivement très important, mais je crois qu'il faut qu'on parle aussi d'économie au sens vraiment très direct, c'est-à-dire notamment le prix des loyers commerciaux au niveau du territoire Saint-Lô.
Merci beaucoup. On va partir pour une page de publicité. On continue ce débat sur l'économie dans Saint-Lô juste après donc une page de publicité. De retour sur votre radio Tendance Ouest pour un débat d'entre-deux-tours pour les élections municipales sur la ville de Saint-Lô. Le thème en ce moment, c'est le commerce et l'économie pour la ville. Et nous étions avec Sébastien Margoteau pour quelle solution, quelle proposition pour le commerce ?
Oui, alors comme je le disais un petit peu auparavant, le prix du loyer commercial à Saint-Lô, notamment en zone centre-ville, est important, trop important. Ça pose de vraies problématiques pour l'installation notamment de nouveaux commerces, puisque ça fragilise leur capacité à s'installer durablement dans notre ville. Et nous, notre volonté, c'est d'utiliser tous les moyens et tous les leviers à la disposition d'une mairie et d'une municipalité pour faire changer cela. Ça passe aussi par la gestion de ce qu'on appelle les locaux commerciaux vides. Et à Saint-Lô, il y en a une trentaine à l'heure actuelle sur tout le territoire, ce qui est quand même assez préoccupant puisque le vide appelle le vide. Et nous, notre volonté, c'est de porter, alors de soutenir l'installation de nouveaux commerces, bien évidemment, mais de porter, notamment dans le cadre d'un outil qu'on appelle la préemption, le droit de préemption urbaine, la possibilité de racheter des baux commerciaux qui sont vides, qui sont vacants depuis trop longtemps, soit pour les remettre en location à des prix inférieurs à ceux du marché, pour favoriser l'installation, soit pour changer leur destination, notamment par exemple sur les questions de logement, ça peut être aussi une solution pour favoriser, on va dire, pour lutter contre le vide commercial en centre-ville.
Fabien Legast, quelle proposition pour le commerce ?
Nous, on rappelle que nationalement, sur les villes moyennes comme Saint-Lô, la clientèle des commerçants du centre-ville, c'est 50% les automobilistes et 50% les piétons et les cyclistes. Donc nous, on propose surtout de développer le transport collectif, donc agrandir les plages horaires, revoir les circuits, et puis une gratuité pour les moins de 25 ans, et surtout développer les mobilités douces et réguler l'offre de stationnement. Après, il faut qu'on ait un programme aussi de réhabilitation des logements vacants du centre-ville, parce que plus une zone de centre-ville va être dense en habitants, plus l'offre commerciale, l'attractivité commerciale pour les commerçants sera forte.
Laurent Houssin.
Toujours du stationnement, mais alors pour rebondir sur ce que disait Madame Lejeune, pourquoi construire un parking silo s'il n'y a pas de problème de stationnement et que vous avez réussi à réguler avec des petites manœuvres comme ça?
C'est un premier niveau de réponse, en fait, la régulation, c'est un premier niveau de réponse par rapport à l'attractivité des commerçants. Si l'objectif majeur, c'est de rendre attractive notre ville et que l'on souhaite avoir plus d'habitants, pourquoi ? Parce qu'il y a une vitalité générale de la ville. Alors il y aura de nouveaux résidents. Si la solution d'un parking à silo permet d'accueillir plus d'habitants et plus de consommateurs en ville, ça sera intéressant parce que la question, c'est effectivement cet équilibre entre pouvoir fréquenter et créer la rotation au centre-ville parce que c'est le cœur de vitalité du commerce, mais de pouvoir aussi être un résident. Parce que quand vous êtes résident et que vous avez, par exemple, un véhicule, il y a bien un moment où il va falloir le déplacer pour ne pas laisser, justement, son véhicule en zone bleue. Donc, en fait, c'est une réponse qui se travaille. Ce n'est pas des réponses toutes faites. Ce sont des réponses qui se construisent au fur et à mesure. Et je rejoins ce qui vient d'être dit par M. Legat, c'est la question du logement. C'est la question de la vacance. Aujourd'hui, il y a 700 logements vacants. Donc, avec l'agglomération, effectivement, on travaille sur des politiques de réhabilitation qui sont très incitatives et qui doivent aussi et répondre avec le développement économique sur la capacité aussi d'accueillir nos étudiants grâce et avec le projet Campus 2030 qui va nous permettre d'accueillir un lien encore plus fort entre la formation, le développement économique et la vitalité des entreprises. Tout ça, ça va ensemble, monsieur Houssin.
Oui, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est quand même comment on va le financer. Et tous ces stationnements qui sont en silo ont forcément un coût.
Évidemment.
Qui va le payer? Ça va être l'usager.
C'est toute la question.
Donc ça va être un stationnement payant centre-ville. Donc on va raquer.
Pourquoi vous voulez que ça soit payant? C'est un modèle.
Comment finance ce stationnement? Vous en connaissez beaucoup des stationnements silos qui sont gratuits?
C'est en tout cas en réflexion et c'est tout le sujet qui sera.
C'est encore les stationnements qui vont payer. Et le centre-ville qui va être tué. Le stationnement payant avait déjà été mis en centre-ville. On a vu le résultat.
Il n'y aura jamais de stationnement payant. Alors,
comment le finance, ce parking?
Vous savez très bien que c'est une réflexion qu'on peut avoir avec. C'est un modèle économique à trouver. En fonction des besoins. Je le dis encore, c'est en fonction des besoins. Il faut être agile quand on est.
Sous aussi. Ou alors, comment on le finance déjà? Voilà, oui, vous n'avez pas de réponse.
Eh bien, il y a plusieurs montages possibles.
Et sur le droit de préemption, Madame Lejeune?
Alors, il existe dans la ville de Saint-Lô depuis 2009, puisque c'est une délibération qui avait été prise sous le mandat de François Digard. Aujourd'hui, on a un nouvel outil qui s'appelle le PLUI et qui organise aussi une protection du linéaire commerçant, puisqu'aujourd'hui, nous avons des baux qui sont protégés et qui ne nous permettent pas de remplacer aussi facilement les activités, et notamment qui nous contraignent, et c'est une bonne chose pour le commerce du centre-ville, à remplacer exactement par le même type d'activité. Si on a par exemple un commerce de vente au détail, il doit être remplacé par un commerce de vente au détail, et c'est le PLUI qui le dit et qui a été adopté, je le rappelle, à l'échelle de l'agglomération l'année dernière. Donc il y a une double protection, et la question qu'on peut se poser effectivement, c'est cette préemption. Alors comment on gère, comment dans le temps, s'il n'y a pas de reprise, comment on s'organise pour pouvoir payer donc ce local et surtout pouvoir inciter les commerçants à venir s'installer? Parce que ça, c'est une question aussi qui est importante et il faut savoir y répondre.
Sébastien Margoteau, vous êtes directement
concerné, effectivement, et je rejoins le sujet qui est forcément complexe sur la question du commerce en centre-ville. La réalité au niveau de la gestion, on va dire de l'organisation du commerce et des activités, c'est qu'il faut avoir une vision très globale sur ce que nous souhaitons faire de notre zone centre-ville, notamment la lutte contre la vacance commerciale, bien évidemment, le fait de travailler contre le logement vacant, bien évidemment, là aussi en centre-ville, et le fait de développer une activité qui fasse venir des gens en zone centre-ville pour consommer. Et ça, c'est une réalité, c'est une demande, là aussi, des commerçantes et des commerçants de Saint-Lô, qui doit être répondue par la municipalité de manière très, très générale. C'est un projet qu'on doit envisager au-delà du commerce, c'est-à-dire au niveau global, au niveau... C'est presque multisectoriel, en fait, multifactoriel. C'est sur tous les sujets, là.
Fabien Legast.
Je pense qu'il faut être très actif sur les friches commerciales et industrielles. Aujourd'hui, on a des locaux comme Orange qui sont plein centre-ville, où on peut créer des logements, où il y avait du stationnement avant, et on peut redonner aussi de l'activité commerciale. Et ces locaux-là, ils sont en friche depuis quelques années aujourd'hui.
Laurent Houssin.
Il y a un local quand même qui est important pour nous, c'est celui de la Banque de France, où il va falloir lui retrouver donc une attractivité. C'est pour ça qu'on propose d'installer donc un casino, hôtel. Voilà, il faut impérativement que l'on recrée de l'attractivité du centre-ville par cette vacance commerciale, en libérant la Banque de France et en la faisant sauter.
Fabien Legast.
Aujourd'hui, toute nouvelle activité demande la création de parking. Aujourd'hui, la Banque de France ne peut pas recevoir un parking pour un casino.
Emmanuel Lejeune.
Écoutez, oui, sur la question du bâtiment patrimonial de la Banque de France, il y a plusieurs projets qui ont été réalisés, il y a plusieurs propositions. Aujourd'hui, la question, c'est l'exploitation. Il faut trouver aussi la levée de fonds qui va bien pour pouvoir, parce qu'il faut transformer ce beau bâtiment. C'est un enjeu, ça prend du temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des tensions sur les secteurs ces dernières années. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. L'objet du prochain mandat, ce sera d'en choisir une et de pouvoir mener cette transformation d'un site qui est très... Les Saint-Lois aiment cet espace, aiment ce site et ils sont attachés. Donc l'idée, c'est vraiment de le valoriser.
Sébastien Margoteau.
Oui, pour revenir sur ce bâtiment qui a été acheté, il me semble, en portage financier avec l'établissement foncier de Normandie en mai 2022, sans destination jusqu'alors. Donc c'est quand même un coût à porter pour la collectivité et à notre humble avis, un mauvais choix, en tout cas à l'époque, de décision d'acheter et de préempter ce bâtiment. On est sur quelque chose en plus qui est très protégé, sur lequel il reste très difficile d'installer et de constituer des exploitations, notamment commerciales. Le sujet du casino de M. Houssin mérite qu'on y revienne quelques instants, puisque au niveau de Saint-Lô, ce n'est tout simplement pas possible à l'heure actuelle d'un point de vue réglementaire et législatif, puisqu'il faut que la ville soit qualifiée de station balnéaire ou de zone touristique, ce qui n'est pas le cas au niveau de Saint-Lô. Donc ce bâtiment, il faudra bien évidemment faire quelque chose. C'est un bâtiment qui est complexe à mettre en exploitation, tout simplement, et sur lequel, et là je rejoins M. Legast, il y a aussi une problématique de stationnement sur cette zone-là, avec un bâti qui reste très complexe, puisqu'il est sur 4 étages, avec notamment encore des anciennes installations de la Banque de France, dont il va falloir savoir faire quelque chose.
Laure Houssin, 30 secondes avant qu'on parte en pub.
Ville non touristique, c'est bien ça le problème. C'est depuis des années, le choix des élus qui nous ont précédés n'a pas été de développer le tourisme. C'est vraiment dommage. On n'a plus de camping, et donc il va falloir redynamiser le tourisme au niveau de l'agglo pour qu'on soit vraiment une locomotive du centre-Manche face aux autres territoires. C'est indispensable.
Merci, on tourne une page de publicité et on se retrouve juste après pour changer de thème, et nous allons parler éducation. Retour pour ce débat d'entre deux tours pour les élections municipales 2026 à Saint-Lô. Pour rappel, on vote dans 12 communes de la Manche dimanche pour un second tour. Autour de la table, nous avons Emmanuel Lejeune, Sébastien Margoteau, Laurent Houssin et Fabien Legast, les 4 candidats qualifiés et qui se maintiennent au second tour pour les élections à Saint-Lô. Et le thème de cette nouvelle séquence, ça va être l'éducation. C'est l'une des missions des mairies. Souvent, quand on pense mairie, on pense école, ce qui va très souvent avec. On va commencer avec vous, Fabien Lecast. Quelle proposition pour les écoles saint-loises ?
Aujourd'hui, il y a des inégalités scolaires qui persistent et les enfants ont besoin d'un accompagnement global à l'école comme dehors. Nous, notre réponse est de soutenir les pratiques innovantes, renforcer la formation du personnel périscolaire, rendre le soutien scolaire accessible à toutes les familles sans alourdir les journées et intégrer du temps de jeu et de respiration dans la journée quotidienne des enfants, et accélérer la végétalisation des cours d'école pour avoir une cour ludique et d'avoir des enfants qui soient au contact de la nature et pas forcément aujourd'hui au contact du bitume.
Quelle méthode innovante, par exemple ?
Il y a la classe dehors aujourd'hui, c'est des trucs qui sont très pratiqués avec toutes les semaines, on va dehors, en forêt, ou dans un parc, ou au bord de la Vire, pour apprendre les sciences de la nature, par exemple.
Emmanuel Lejeune.
Oui, une compétence fondamentale pour la commune. Alors, c'est d'abord proposer des écoles qui soient adaptées pour favoriser les apprentissages et l'épanouissement de chaque enfant, et donc de leur permettre d'être bien accueilli, effectivement entouré des équipes éducatives. Alors c'est ce qui a été fait, nous avons réhabilité 2 écoles. Aujourd'hui, il y a le projet de la végétalisation de la cour de l'école Jules Ferry, qui donc a été travaillé en concertation avec tous les acteurs. Et nous avons aussi, bien que ça a été souligné, mais c'est déjà fait, Monsieur Legast, l'épanouissement ça compte, la curiosité aussi. Alors tous les midis, il y a des activités nombreuses qui sont proposées aux enfants. La commune, pour ça, attribue 100 000 euros pour que les activités soient proposées avec des intervenants de qualité formés et qui puissent intervenir sur le temps de midi. C'est aussi pouvoir avoir amplifier les services aux familles, parce que c'est la garderie du matin, c'est la garderie du soir, c'est l'aide aux devoirs. Nous avons aussi donc tout un dispositif qu'on appelle le projet de réussite éducative, qui s'adresse aux familles justement qui ont peut-être moins l'habitude d'aller dans des lieux culturels, les médiathèques, le théâtre, qui sont accompagnés. Et puis je crois qu'il faut aller encore plus loin, et c'est pour ça que nous allons proposer dans le mandat qui arrive, si nous avons la chance d'être élus, de pouvoir proposer une ville à hauteur d'enfant, c'est-à-dire de pouvoir adapter le centre-ville, mais pas que, l'ensemble de la ville, à la hauteur des enfants, c'est-à-dire sécuriser les espaces, c'est-à-dire animer autour des écoles et aux abords des écoles des possibilités d'activité, mais c'est aussi impliquer les enfants, les jeunes, la jeunesse même, les étudiants, sur des projets notamment culturels, de patrimoine, et notamment, je disais ce matin, il y a la célébration pour l'hôpital irlandais, c'est de réaliser de nombreux projets avec les établissements scolaires pour que nos enfants, nos jeunes, soient complètement impliqués dans la vie de la cité, que ce soit de façon pour des projets culturels, mémoriels, ou de découverte de la nature, du patrimoine. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec nos enfants et nos jeunes.
Ville à hauteur d'enfants, c'est exactement la même formulation dans votre programme.
On a la même proposition du programme, c'est de chez soi jusqu'à l'école, d'avoir des parcours ludiques pour que l'enfant puisse s'épanouir au quotidien. Après, 100 000 euros pour le périscolaire, divisé par 5 écoles, ça fait 20 000 euros par école. C'est insuffisant. Je pense qu'il faudrait un peu gonfler
On est sur le temps du midi. Hein.
Temps du midi.
Et,
oui,
y a aussi, et je vous rejoins, il y a aussi des enfants qui ont le droit de ne rien faire. Donc aussi. Il n'y a pas que des activités proposées. Il y a le droit aussi de rêver. Et c'est important.
On est d'accord.
Sébastien Margoto. Et après Laurent Roussin.
Alors au niveau de l'éducation, de manière globale, je pense qu'il faut forcément améliorer la rénovation énergétique des écoles qui en ont besoin et aussi travailler à l'accessibilité accrue.
Lesquelles, monsieur Margoto, maintenant ?
Eh bien, les écoles qui n'ont pas fait l'objet, par exemple, des travaux et qui ne sont pas neuves.
Il reste plus grand chose.
Dites-moi lesquelles.
Bon. Mais il reste effectivement notamment l'école.
Ça commence par
Samuel Beckett.
Ça finit par Ferry.
Oui, Samuel Beckett, ça vient de rien. On est d'accord. Oui, d'accord. Mais par exemple, les travaux sur l'école Jules Ferry au niveau de la végétalisation, il faut aller plus loin, par exemple. Là, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Je termine aussi sur le sujet culturel, parce que c'est important pour nous, le soutien aux activités culturelles dans le cadre scolaire, c'est important et il faut l'accroître. Ça, c'est aussi crucial et central. Et puis, nous, la volonté, c'est aussi de développer de nouvelles méthodologies et de nouveaux projets, notamment sur le sujet, et ça on l'a dit, hein, l'épanouissement et l'expérimentation face au vivant, mais aussi le vivre ensemble et la lutte contre le harcèlement. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, là aussi, c'est quand même quelque chose d'assez crucial. Nous pensons qu'il faut fortement favoriser, et là je reprends le sujet de la culture parce que c'est très important, fortement favoriser sur le temps scolaire, périscolaire, mais même en dehors du temps scolaire, pour les enfants et les personnes de moins de 18 ans sur le territoire. Là, je rebondis un peu sur le sujet de la jeunesse. L'accès, l'accessibilité, notamment financière, à la culture sur le territoire. Ça, c'est crucial et c'est central, nous, à notre niveau, au niveau de nos propositions.
Laurent Houssin.
Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. La base de l'éducation, ça commence par là. Et trop nombreux enfants n'ont même pas ce béaba d'éducation. Donc, il va falloir d'abord instaurer ceci dans toutes les écoles, parce que ce n'est pas le cas. Rappeler aux parents ce que c'est que le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça commence déjà par les minimums, le béaba, la base qu'on peut vivre ensemble. Et ça, je vois trop d'enfants qui ne le disent pas et c'est insupportable. Donc ça va être un de nos axes de travail avec certains parents pour éduquer, parce que la base du vivre ensemble, ça commence par la politesse et le respect. Ensuite, il y a des choses qui ont été faites effectivement au niveau de l'école, oui, que ce soit Samuel Beckett ou même en termes de rénovation avec Raymond Brulé. Maintenant, il faut aller aussi un petit peu plus loin en termes de développement. Il y a eu la petite calèche hippomobile qui a été essayée, c'est un choix qui a été fait. Maintenant, on pourrait aussi développer donc des systèmes de transport collectif qui s'appellent des school bus, que j'ai pu voir à l'époque sur un maire qui pourtant n'était pas très écolo, président d'Aglo, Senheur, qui l'a mis en place du côté de Val-de-Reuil et du Vaudreuil, et ça a été quelque chose de très très bien pour les enfants, pour leur apprendre la sécurité, pour leur faire du sport. Mais ce que je constate aussi en regardant un petit peu dans le rétro, c'est que de trop nombreuses décisions qui ont été prises par l'aglo pour la compétence sport, je pense notamment au sport vacances, a été d'augmenter le tarif, ce qui fait que le sport a été rendu moins abordable. Les tarifs du centre aquatique ont été rendus moins abordables, donc on a des enfants qui, plutôt que de pratiquer du sport, restent... Effectivement, ils ont le droit d'apparaître, mais des fois, ils restent à rien faire et ils s'ennuient. Et quand on s'ennuie, parfois, on fait des bêtises. Surtout quand on a 12, 13, 14 ans. Comme se mettre sur l'école Samuel Beckett, lancer des cailloux sur les gens, sur l'ancienne maison de quartier de l'Adelaide, de lancer des cailloux. Donc, il va falloir un peu remettre d'éducation au sens premier du terme.
Et dans vos propositions, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure c'est le rôle de l'éducation nationale et le rôle de la mairie pour les méthodes innovantes, par exemple, ou pour l'éducation, justement.
Il y a une répartition, hein, la compétence, elle est évidemment communale, elle est d'organiser l'accueil de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors, il y a des projets éducatifs, pédagogiques, qui sont travaillés avec et au sein des conseils d'école, mais il y a aussi toute la dimension. Alors, la caractéristique, et je sais très bien que c'est difficile, hein, pour les familles de s'y retrouver parfois, nous partageons la compétence petite enfance, jeunesse, avec l'agglomération, les services de l'agglomération. Et vraiment, l'idée, c'est de travailler sur la coordination et donc sur la continuité des offres éducatives, parce qu'un enfant, évidemment, va naître à l'hôpital et donc va grandir. Et bien sûr, en fonction de son développement et de ses âges successifs, il ne va pas avoir les mêmes besoins. Donc l'idée, c'est que les politiques publiques s'alignent, coopèrent et puissent répondre aux préoccupations des familles. Parce que c'est ça que les familles attendent, c'est ça que les Saint-Lô attendent. C'est qu'on puisse prendre en charge, à des moments où ils en ont besoin, les enfants, pour qu'on puisse avoir ces temps d'éducation active. Parce que chaque moment est important et on est éduqué partout et ensemble dans la ville. Et en fait, c'est la répartition de ces compétences qui est importante. et qui est beaucoup travaillé au sein de l'agglomération, puisqu'il s'agit de coordonner, et nous avons les services qui ont en charge de le faire.
Sébastien Margoteau.
Oui, sur le sujet de la coordination, il faut clairement travailler beaucoup plus et plus en ce sens, notamment sur le sujet des projets qui devront être menés au sein de l'école, avec les équipes, bien évidemment, en lien direct avec les équipes enseignantes et les équipes d'éducation. Et puis derrière, il y a aussi, je le pense, un soutien accru qu'il faut que nous ayons, notamment vers le monde associatif de l'éducation. Je pense notamment aux associations de parents d'élèves qui travaillent dur sur le territoire au niveau effectivement de la dynamique scolaire. Pour le sujet de la jeunesse, il y a clairement quelque chose à voir à la fois sur les activités, on va dire, de la jeunesse qui se trouve dans les collèges lycées de notre territoire, et puis plus loin, et là je vais rebondir sur le sujet notamment étudiant, puisqu'on a une population étudiante très importante sur Saint-Lô, hein, on a plus d'une quarantaine de secteurs de formation et presque 2000 étudiants, si je ne m'abuse.
53 formations,
ça a augmenté, c'est parfait. Dans la situation, on est sur une situation où là, il y a des sujets qui doivent être réglés au-delà, on va dire, de l'aspect jeunesse-éducation. Moi, je suis allé à la rencontre et au contact de ces étudiants, notamment. Je suis allé discuter avec eux, des gens qui ne sont pas spécialement de Saint-Lô, qui viennent en général pour des motifs de formation. Et il y a quand même des sujets en dehors, hein, de cette logique éducationnelle qui viennent directement s'entrechoquer avec les réalités de leur formation. Je pense notamment au sujet des transports, qui a été abordé plusieurs fois. Je pense aussi notamment au sujet des ordures ménagères, qui ont été soulignées par les étudiants, puisque les étudiants habitant Saint-Lô payent les ordures ménagères de la même manière qu'un habitant, c'est-à-dire avec un prix plancher à 250 € sur le territoire saint-lois, en tout cas zone ville. Donc on a quand même des sujets qui doivent aussi nous questionner au-delà de la simple du simple soutien. Et là, je rebondis sur le projet, hein, du campus unique, hein, qui est en construction, sur lequel l'agglo a financé, sur lequel la ville aussi a financé. Et derrière, des questions qui demeurent, notamment, alors là, à l'heure actuelle, moi, j'ai surtout eu des inconnus pour les étudiants qui se questionnent, en fait, des étudiants en Saint-Lô qui se disent, mais alors comment on s'organise, où est-ce que le campus va être placé, comment les transports vont être constitués, quelle structuration pour notamment le parking ou le stationnement de leur véhicule, puisqu'ils sont en général véhiculés ou pas. Donc là, c'est aussi un besoin d'y voir beaucoup plus clair sur le projet d'études et éducatif. On va dire des lycéens et des étudiants qui arrivent sur Saint-Lô au niveau du territoire saint-lois. Ça, c'est un besoin.
Laurent Houssin.
On n'a pas beaucoup parlé non plus des jeunes qui fréquentent l'enseignement libre, donc les écoles que l'on peut avoir. Et voilà, beaucoup m'ont fait part de leur inquiétude par rapport à la baisse de l'aide qu'il avait pu y avoir pour les enfants, notamment pour leur apprendre la natation. L'agglo a décidé de baisser les aides, et plus largement au niveau de notre jeunesse. Je pense notamment à des gens qui peuvent être impliqués au niveau de l'athlétisme, qui ont eu une baisse des subventions au niveau de la piscine. L'agglo a quand même eu, avec M. Legendre, qui est vice-président chargé des sports, il y a quand même eu une politique de réduction, même pour des associations qui ont été vertueuses en ayant limité les transports pour limiter la pollution. On leur a versé quoi, 5 000 € en moins au niveau du...
Alors pour revenir sur le débat, c'est qu'effectivement, le sujet de l'agglo, qui est un sujet extrêmement important pour les élections municipales, parce que c'est le vote d'après, et pour revenir sur les... On n'est plus trop sur les compétences de la ville, mais sur de ce que peut faire la ville, qu'est-ce que vous proposez, si on reprend sur le temps long de l'enfance, on va dire, comme vous évoquiez, Madame Lejeune, de la naissance à l'âge adulte. Jeune adulte.
Par rapport à quelle thématique?
Sur toujours l'éducation au sens large, ou l'enseignement.
Oui, après l'éducation, je vois, il y a beaucoup de jeunes aussi, des ados qui sont en trottinette, qui ne font pas forcément attention aux personnes plus âgées. Je pense notamment aux piétonnes. Et là, voilà, je pense qu'au moment, il faut verbaliser. Je sais que ça a été fait à Niau, il y a des arrêtés anti-trottinette.
Et bien sûr, c'est fait à Saint-Lô.
Oui, et il faut le faire même plus largement à Saint-Lô, parce qu'avec 4 policiers municipaux, maintenant 6, je l'espère rapidement, ça va être mieux. Mais il va falloir augmenter les effectifs pour...
Peut-être pour préciser, parce que c'est important que les Saint-Lois le sachent bien, et ce campus, en fait, l'objet, c'est vraiment de renforcer, hein, le pôle formation de Saint-Lô. C'est l'agrandissement des laboratoires de recherche. Il y a 2 laboratoires de recherche, hein, qui sont donc le GREC et le LUSAC, qui travaillent notamment, le LUSAC, sur l'énergie. L'idée, c'est de rendre beaucoup plus visible ce site pour que les étudiants aient aussi une possibilité d'avoir une salle de vie étudiante, mais aussi une cafétéria, mais aussi des lieux pour pouvoir travailler. Et ce qui est très important, parce que vous savez, au cours du mandat, quand on a travaillé ce projet, parce que c'est un projet qui date d'assez longtemps, mais finalement qui a été finalisé au cours de ce mandat, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a l'université, il y a le département, il y a la région, il y a même les acteurs européens, puisqu'il y a aussi des fonds fédères, et puis l'agglomération et la ville, c'est vraiment de considérer que c'est une offre de formation aussi pour les habitants de l'agglomération, parce que certains ne peuvent pas, pour les raisons qui leur appartiennent, pour des raisons financières, de santé, pouvoir se déplacer pour être formés. Et j'ai eu énormément de témoignages d'étudiants qui sont restés ici, qui ont pu se former. Et je crois que c'est vraiment l'objectif et la dynamique d'une ville moyenne comme la nôtre, c'est de pouvoir offrir à tous un moyen de formation, c'est-à-dire une montée en compétences, pour pouvoir ensuite intégrer nos différentes entreprises sur le territoire, que ce soit de façon alternée, c'est-à-dire les alternants ou les apprentis, et de créer de la richesse de compétences au service de nos entreprises, la vitalité économique.
Parlons de l'agglo.
Et c'est très important, et je vous parle de l'agglo quand je vous parle
de ça. Oui, mais l'agglo, les vrais problèmes.
Et c'est très important parce que, justement, ça assoit l'égalité des chances, et je crois que c'est fondamental aujourd'hui que la ville moyenne se positionnent comme des lieux d'accueil, de formation. Et je crois que tous ensemble, il faut toujours se battre, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une évidence, mais il faut vraiment rendre attractive la ville de Saint-Lô et le bassin en termes de formation et de coopération avec le tissu économique. C'est fondamental.
Fabien Legast, on ne vous a pas entendu sur ce développement de la formation, effectivement, qui est un sujet porté par l'agglo, mais aussi par la ville qui pour l'accueil des étudiants.
Il y a les projets en cours, c'est sûr. Après, comme ça a apparu dans plusieurs programmes, il y a aussi la création de l'école de kiné à 7 heures pays, qui permet d'accueillir 200 étudiants sur un cursus de 4 ans, ce qui va dynamiser le centre-ville et offrir... Et à côté, il faut qu'on offre suffisamment d'offres pour que ces personnes-là, ces nouveaux étudiants, puissent rester sur place. Donc des nouveaux logements, des offres attractives au niveau de la garde d'enfants, des crèches peut-être municipales. Donc il y a tout un contexte à revoir au global, quoi.
Il nous reste 5 minutes avant de terminer ce débat et je voudrais vous laisser tous la parole pour une carte blanche d'une minute afin que vous puissiez évoquer des projets peut-être que vous n'avez pas encore pu complètement défendre lors de ce débat. Et on va commencer avec vous, Madame Lejeune, pour une minute.
Dimanche a lieu le second tour de l'élection municipale. L'élection municipale, c'est élire un conseil municipal, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont engagés dans une ville, qui vont donner du temps pour l'intérêt général. Aujourd'hui, l'équipe engagée pour Saint-Lô est une équipe sans étiquette, mais avec de nombreuses compétences. Nous sommes aujourd'hui en capacité, en stabilité, en expérience, de pouvoir continuer les nombreux projets qui ont été entamés, mais de poursuivre. De poursuivre avec une préoccupation et une attention particulière avec ce qui a été dit, ce qui a été entendu tout au long du mandat, mais aussi ces dernières semaines dans le cadre de la campagne, pour des préoccupations des Saint-Loises et des Saint-Loises et des Saint-Loises et des Saint-Lois, et qui trouveront écho dans notre proposition de gouvernance, car il est urgent de consolider ce conseil municipal là où les Saint-Lois attendent de la stabilité, de l'efficacité, de l'énergie pour avancer. Car je ne suis pas un maire tourné vers le passé, mais bien vers l'avenir, pour nos enfants, nos jeunes, pour les actifs et les personnes âgées qui vivent dans notre ville. Merci.
Sébastien Margoteau, rapidement.
Oui, merci. Au niveau de ce projet, de notre projet de la gauche unie pour Saint-Lô, nous avons souhaité, nous souhaitons porter des propositions très claires et des positions très claires de la municipalité, de la ville de Saint-Lô, notamment à destination des personnes les plus en difficulté sur notre territoire. Je pense aux personnes en situation de précarité ou en situation de handicap. C'est très important de repenser la manière dont nous construisons, dont nous évaluons et dont nous mettons en œuvre les politiques publiques en pensant à de tout temps. Je pense que c'est très important de le faire et c'est un souhait et une volonté à notre niveau. Et je pense qu'il faut aussi, et ça c'est une volonté très forte à notre niveau, c'est d'agir différemment avec la communauté d'agglomération de Saint-Lô, de porter des projets directement. On a parlé des déchets, de la redevance ordures ménagères, on a parlé des transports en commun. C'est quelque chose qui doit être porté par la municipalité dans le cadre de ces élections. Et dans le cadre de ce deuxième tour des élections, nous continuerons de porter ces projets.
Laurent Houssin.
Alors, Le changement, c'est Laurent. Donc, le 22 dimanche prochain, il va falloir voter pour changer, qu'on ait une autre gouvernance, que l'on remette de l'huile dans les rouages de la municipalité pour qu'on n'ait pas les problèmes de ressources humaines qu'on a pu avoir, des agents en souffrance. Donc, il va falloir un maire présent qui puisse rassurer les gens. Il va falloir aussi un maire qui prenne aussi un peu les rênes de l'agglo, qui puisse régler les problèmes des poubelles, dont les gens nous abondent de messages, que ça devient quelque chose qui devient intolérable à Saint-Lô, donc il va falloir mettre les mains dans le cambouis de ce qui a été fait les derniers mandats. Ça va être un mandat dur où un mandat va y avoir beaucoup de travail. Donc, Madame Lejeune vante la stabilité, mais l'expérience, les gens ont 6 ans d'expérience de Madame Lejeune. Maintenant, il est temps de tourner la page.
Fabien Legast, pour terminer.
La démocratie participative, c'est une méthode qui fonctionne déjà ailleurs, comme à Plessé ou à Poitiers. En 2026, au top départ, il y avait 700 listes citoyennes participatives. 126 ont gagné au premier tour leur mairie. 171 seront présentes au second tour. Donc, Saint-Lô Commune citoyenne, c'est la vraie alternative face à la défiance des politiques actuelles et aussi pour faire barrage aux idées d'extrême droite.
Merci beaucoup à tous, à tous les quatre pour ce débat d'entre-deux-tours pour le second tour des élections municipales à Saint-Lô. Vous retrouvez bien sûr tout ce replay de ce débat sur tendanceouest.com. Vous avez la soirée électorale où j'espère que nos quatre invités seront bien présents dimanche soir à dès 19h pour attendre les résultats et dès 20h pour les commenter. Et puis vous retrouvez les résultats sur tendanceouest.com. Excellent après-midi à notre écoute.